I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La reprise économique de la Chine après la crise de la Covid-19 est caractérisée par des hauts et des bas. Il faut s'attendre à des difficultés. La Chine a mis en place une série de mesures ciblées et substantielles visant à promouvoir la consommation, à stimuler le secteur privé et à attirer les investissements étrangers.
Les défis de la croissance chinoise évoqués ici dans un discours d'un responsable des affaires étrangères sur CGTN en français. Un message pour rassurer les investisseurs étrangers face au ralentissement économique, car la Chine peine à sortir des effets de la crise du Covid entre krach immobilier et crise de confiance des consommateurs. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à retrouver dès 17h sur leséchos.fr et sur les plateformes comme Apple Podcast, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
J'aime acheter des gadgets, des bracelets ou des colliers. J'achète la plupart de mes articles en ligne sans rien planifier à l'avance. Je commande au fur et à mesure que je navigue sur les magasins en ligne.
Je dépense beaucoup pour voyager. J'achète aussi de la nourriture et des vêtements de qualité. Comme je viens de commencer à travailler, j'améliore un peu mon mode de consommation.
Parole de consommateur dans un centre commercial de la banlieue de Pékin sur CGTN. La Chine comptait sur les festivités du Nouvel An chinois et le passage à l'année du dragon pour réchauffer un peu la consommation et soutenir une croissance qui ralentit. Tourisme local, achat de produits festifs, c'est une période faste pour la consommation et qui a même permis un léger rebond de l'inflation en février pour la première fois en 6 mois. Mais cela sera-t-il suffisant pour tenir les objectifs ambitieux de croissance économique de la Chine ? Bonjour Frédéric Schaeffer.
Bonjour Pierrick.
Correspondant des Échos à Shanghai. D'abord, comment se porte l'économie chinoise ?
Si je devais utiliser 3 mots, je dirais morose, incertaine et attentiste. Le PIB de l'économie chinoise, donc, il a progressé de 5,2% l'an dernier. Ça n'a pas été une surprise, mais ça a quand même été décevant. Parce qu'il faut se souvenir que la Chine sortait de 3 années de fermeture, de fortes restrictions sanitaires par rapport au Covid. Et donc, on aurait pu s'attendre qu'avec la réouverture, qu'il y ait un phénomène de rattrapage, que les gens se précipiteraient dans les magasins. Et en fait, ça s'est passé, mais de manière extrêmement limitée. Et finalement, le rebond a été court et du coup, on se rend compte que la fin du zéro Covid, c'est pas la panacée et que la croissance chinoise, elle reste bridée par des problèmes structurels. Et pour parler plus récemment, le début de l'année, janvier, février, c'est un peu difficile à lire avec des indicateurs avancés qui sont un peu contradictoires. Donc, il faudra plutôt attendre la mi-avril avec la publication du PIB au premier trimestre pour se faire une idée. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même les difficultés économiques, elles sont réelles. Elles semblent dues à la dégradation quand même du sentiment, de la confiance des ménages et des entreprises privées. Et ça affecte la consommation, ça affecte les investissements. Alors, cette perte de confiance... Elle est due au zéro Covid qui a vraiment été un choc, voire un traumatisme quand même pour les acteurs économiques, les ménages, les entreprises. Il faut quand même se souvenir que en 24 heures comme ça, par exemple, les autorités chinoises ont pu décider de tout fermer et d'enfermer pareil, tout le monde à Shanghai. Donc ça a vraiment été un choc. Et puis en parallèle, il y a une crise de l'immobilier. C'est un secteur considérable avec ses impacts directs et indirects. Certains disent que ça représente environ 30% du prix du PIB. Et le secteur immobilier traverse vraiment une grave crise qui dure depuis maintenant 2 ans. Donc ça a un impact sur l'activité, mais ça a également un impact sur le moral et le sentiment de richesse des Chinois. Juste un chiffre, 70% environ du patrimoine des ménages chinois est dans l'immobilier.
Alors la consommation des ménages continue de croître, plus 5,5% en début d'année sur un an, mais le rythme ralentit alors qu'on était en période de fête avec ce nouvel an lunaire. Frédéric, est-ce que vous ressentez cette frilosité du consommateur lorsque vous vous promenez à Shanghai ?
Comme ça, au premier regard, c'est quand même très difficile à cerner. Moi, mes observations, elles se font par petites touches, de manière très impressionniste. En fait, tu me demandes la situation à Shanghai, mais Shanghai, faut garder en mémoire que c'est une des villes les plus riches de Chine, et que la Chine, c'est un territoire immense, c'est 14 fois la France. Donc, ça rend le tableau compliqué. Donc, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a toujours beaucoup de monde, par exemple, dans l'App Store de l'IMPM, qui est un mall dans le centre de Shanghai, ou sinon, je peux observer que les clients continuent de se presser dans les boutiques ou que, je sais pas moi, les artères commerçantes restent quand même très fréquentées le week-end. Donc comme ça, un coup d'œil rapide, c'est quand même difficile de cerner les difficultés économiques. Mais quand on creuse un peu, quand on interroge les gens, on a déjà un sentiment différent. Dans les entretiens que je peux avoir avec des dirigeants d'entreprise, très franchement, en ce moment, il y en a pas un qui me dit que ça va très bien, il y en a pas un qui est très très optimiste. La plupart me disent que la situation est difficile, qu'ils tirent la langue. Et ça semble quand même concerner la plupart des secteurs, même si bien évidemment, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par le secteur de l'immobilier sont particulièrement touchés. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on interroge des restaurateurs, ils reconnaissent que la situation n'est pas folle. Ou quand on parle à des jeunes diplômés chinois, ils nous disent que c'est difficile de trouver un emploi en ce moment, ou en tout cas un emploi qui correspond à leurs attentes et à leur niveau d'études. Donc oui, il y a un ralentissement en Chine, et on parlait de la consommation. La consommation, elle reste encore modeste. Après, je veux dire, faut quand même se souvenir qu'en Chine, pendant le Covid, contrairement à ce qui a pu se passer en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas eu de plan de relance de la consommation. Donc, finalement, les capacités d'achat, elles sont restées limitées. Et puis, encore une fois, il y a cette énorme crise de confiance. Et ça, on le voit dans le fait que l'épargne de précaution reste élevée en Chine.
Des rues bouclées, des policiers aux quatre coins de Pékin, la capitale chinoise barricadée pour un grand rendez-vous annuel, la session du Parlement. Des milliers de représentants sont venus assister sous l'œil du président Xi Jinping à cette grande messe déterminant les orientations politiques du pays.
Début mars, lors de la session annuelle du Parlement, le Premier ministre Li Qiang a dévoilé les prévisions du gouvernement en termes de croissance. Que prévoit-il ?
Alors, l'objectif de croissance a été fixé à environ 5% pour cette année, donc c'est le même que l'an dernier, où la croissance avait fini à 5,2%. Bon, honnêtement, il n'y a à peu près aucun suspense sur le fait que la Chine atteindra cet objectif, parce que c'est pas une prévision, c'est toujours un chiffre qui est fixé par le gouvernement central, et il fait toujours en sorte de l'atteindre. Mais on sait que clairement la marche sera plus haute que l'an dernier pour atteindre ce 5%. Ça paraît ambitieux car la Chine notamment ne pourra pas compter sur un effet de base favorable. Il n'y aura pas de comparaison par rapport à une année Covid. Donc finalement, à travers ce chiffre, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que Li Qiang, il envoie un message fort aux acteurs économiques, c'est-à-dire que les autorités croient au redémarrage de l'économie après ces 4 années difficiles marquées par le Covid et la crise immobilière. Mais de l'autre, il annonce ce chiffre, mais il fait très peu état, voire pas du tout, de nouvelles mesures de soutien pour atteindre cet objectif. Ce qui est intéressant aussi à noter dans le discours qui a été tenu donc en mars par le Premier ministre, c'est que l'accent est vraiment mis sur les nouvelles forces de production, sur le renforcement de l'industrie de pointe, alors que les années précédentes, quand même, le gouvernement mettait beaucoup l'accent sur le nécessaire rééquilibrage vers la consommation pour relancer la croissance. C'est encore dans le discours, mais c'est beaucoup plus moins prégnant. Là, vraiment, le discours, c'est de parler des nouvelles industries. Et d'ailleurs, on voit bien que il n'y a pas eu d'annonce de mesures de relance pour soutenir la demande. Et ça, on peut l'interpréter comme un changement de direction. L'accent, il est vraiment mis sur l'offre, sur la volonté de faire de la Chine vraiment la véritable usine du monde, ce qu'elle est déjà, mais cette fois également pour les produits les plus avancés. D'ailleurs, elle cite, la Chine parle maintenant de 3 nouveaux secteurs, qui sont les véhicules électriques chinois, les batteries, les énergies renouvelables. Et c'est finalement par la montée en gamme de son industrie qu'elle mise pour se redonner un nouveau souffle. Après aussi, une chose importante, c'est que on se rend compte que la croissance, l'économie, c'est pas forcément la première des priorités politiques. Ça reste important, mais clairement, quand même, la Chine, depuis quelques années, et particulièrement en ce moment, met l'accent sur la sécurité, sur le contrôle, qui est à peu près, sinon plus, au même niveau que le développement économique. Donc ça tend un peu à augmenter l'incertitude sur la trajectoire chinoise.
Vous racontez d'ailleurs dans Les Échos que lors de son discours, le Premier ministre Li Qiang a prononcé 28 fois le terme de sécurité contre 20 fois celui de croissance. Et autre signe de la nouvelle obsession de la Chine pour la sécurité, le budget de la défense va augmenter de plus de 7% cette année comme en 2023. Et depuis l'arrivée à la présidence de Xi Jinping, il y a plus d'une décennie, il a doublé pour atteindre 213 milliards d'euros.
C'est par une salve de 70 coups de canon qu'a débuté cette journée inoubliable. Une journée de fête avec levée du drapeau national et un défilé militaire des plus grands du genre.
Le 70e anniversaire de la République populaire de Chine en 2019, une démonstration de force politique et militaire. Mais en matière de force économique, la Chine donne l'impression de ne pas avoir retrouvé son rythme d'avant la pandémie de Covid. En 2023, hors année Covid, le pays a enregistré sa croissance annuelle la plus lente depuis 1990, année qui avait suivi les manifestations étudiantes de Tiananmen. La Chine est-elle rentrée dans le rang en matière de croissance? Pour en parler, j'ai appelé Françoise Wang, elle est économiste senior et spécialiste de l'Asie chez Allianz Trade. Bonjour Françoise Wang.
Bonjour Frédéric.
Allianz Research a publié récemment une étude instructive sur la Chine titrée « Garder le dragon chinois éveillé ». D'abord, pourquoi la croissance est-elle si importante pour la Chine ?
Parce que sur beaucoup de mesures, en tout cas, ça reste quand même encore un pays émergent, dans le sens où on a encore de la marge pour que le niveau de vie, par exemple la classe moyenne ou de la population plus largement, pour que cela évolue. Donc la croissance reste importante parce que voilà, on a encore aussi des moteurs de croissance dont le potentiel n'a pas encore été complètement exploré, et à la fois on a d'autres anciens moteurs de croissance qui sont en train de s'essouffler. Donc je dirais que l'enjeu, c'est surtout de naviguer une sorte de transition de modèle économique. Je dirais que la croissance, oui, est importante, mais peut-être moins importante qu'il y a 10 ans, 20 ans, où les objectifs de croissance officiels pesaient encore plus qu'aujourd'hui. Et l'enjeu vraiment aujourd'hui pour les autorités chinoises, c'est donc de faire cette transition de modèle économique, d'accompagner en fait le ralentissement de la croissance, parce que la croissance est en train de ralentir.
Le gouvernement chinois table sur une croissance de plus de 5% encore en 2024. Mais on en parlait avec Frédéric à Shanghai, l'immobilier chinois est en crise. Il est passé de héros à zéro, c'est ce que vous écrivez dans ce rapport. Les tensions entre l'Amérique et la Chine et la crise en Ukraine ont aussi ralenti les investissements étrangers en Chine. C'était deux moteurs importants de la fusée chinoise ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies. Est-ce que ces deux moteurs se sont éteints durablement ?
Qui se sont éteints, ça dépend. Je dirais que le secteur de la construction, le secteur de l'immobilier, on pourrait en quelque sorte dire que le moteur s'est presque éteint, puisque en tout cas, en termes de chiffres, en termes de contribution à la croissance de l'économie totale, le secteur immobilier apporte une contribution négative. Donc si on veut vraiment continuer cette analogie, on pourrait dire qu'en ce moment, oui, ce moteur est plutôt éteint. Le secteur immobilier, en fait, est en train de connaître une correction, on pourrait dire nécessaire, parce que l'économie chinoise dépendait probablement trop sur le secteur de la construction dans le passé. Mais cette correction est évidemment assez douloureuse et difficile à faire à court terme, puisque voilà, on parle d'un secteur qui est lié à 25 à 30% de l'activité économique chinoise. Donc forcément, un secteur de cette taille-là, qui est en tout cas en grand ralentissement, voire à l'arrêt dans certaines mesures, c'est difficile pour l'activité économique globalement. Donc, et si on regarde maintenant vers l'avenir, avec un contexte de urbanisation qui continue, mais qui est moins porteur qu'il ne l'était sur les décennies passées, une démographie qui n'est pas non plus favorable, les perspectives de croissance pour les années à venir de ce secteur sont clairement très différentes du passé. Et pour nous, en tout cas, et le secteur immobilier ne sera plus l'un des moteurs de croissance de l'économie chinoise dans le futur. Et donc, on est en train de vivre cette correction difficile, justement.
Concernant juste aussi l'attractivité de l'économie chinoise pour les investisseurs étrangers, on sent que la Chine n'est plus aujourd'hui perçue comme un Eldorado, non plus pour les Américains, les Européens, mais peut-être aussi d'autres pays, notamment occidentaux.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là qui jouent. Le facteur conjoncturel, croissance. Donc effectivement, on n'est plus sur des niveaux de croissance à deux chiffres qu'on a pu connaître dans les années 2000. Donc là, déjà, c'est plus difficile, disons, pour les entreprises, toutes les entreprises, hein, étrangères et chinoises, c'est évidemment plus difficile de faire du business si, en fait, la croissance est moins forte qu'avant. Donc je pense que ça, c'est un facteur déjà conjoncturel. Ensuite, il y a le facteur, évidemment, de compétition. Donc les entreprises chinoises aussi, ça va dépendre d'un secteur à l'autre, évidemment. Mais les entreprises chinoises aussi sont de plus en plus compétitives. Donc ça rend aussi plus difficile pour les entreprises étrangères de faire du business en Chine. Je ne parle pas non plus de, encore une fois, dans certains secteurs, voire certaines villes ou géographies, la régulation peut aussi être plus en faveur des entreprises domestiques plutôt que des entreprises étrangères. Les années qu'on a passées de zéro Covid, ces politiques de confinement qui ont duré plus longtemps en Chine, ça aussi, ça a réduit l'attractivité du marché chinois pour les entreprises étrangères. Et évidemment, le sujet géopolitique. Ces tensions géopolitiques depuis ces dernières années, depuis l'administration Trump, pendant Covid, donc ça fait quelques années déjà maintenant, ce contexte géopolitique qui se tend peut rendre aussi potentiellement les relations économiques de la Chine avec le monde occidental un petit peu plus instable et qui du coup aussi va rentrer dans la balance quand les investisseurs étrangers considèrent le marché chinois. Cela dit, pour revenir sur l'analogie « est-ce que le moteur est éteint ?», je n'irai pas jusque-là non plus sur ce point, parce que même si la croissance chinoise est plus faible qu'avant, on parle quand même d'un marché domestique grand qui croît quand même toujours à 4-5% pour les années à venir. Mais évidemment, c'est beaucoup moins facile qu'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression quand même que l'attractivité du marché chinois est moins forte que dans le passé.
Il y a deux moteurs qui tout sautent aujourd'hui dans l'économie chinoise, mais il y en a quand même d'autres qui vont suffire en tout cas à assurer une bonne croissance. Il y en a un auquel on pense souvent, c'est l'usine du monde. La Chine va rester l'endroit où l'on fabrique un certain nombre et de nombreux produits qui seront consommés un peu partout dans le monde.
Pour nous, oui, il y a de la diversification. Oui, les entreprises peuvent chercher à ouvrir des usines ailleurs qu'en Chine, mais ça vient plutôt en complément de la Chine. Et dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de chaînes de valeur, c'est extrêmement difficile, à moyen long terme même, de se détacher de la dépendance qu'on a sur l'appareil de production chinois. Et on a regardé justement dans quelle mesure, en fait, est-ce que c'était possible ou difficile de se détacher. Et on a utilisé une mesure de dépendance critique. Donc pour faire simple, ce sont les dépendances où aujourd'hui, quand on regarde les structures de flux commerciaux, les structures d'exportation-importation, aujourd'hui la Chine a vraiment une position dominante sur l'exportation mondiale pour ses biens, pour ses secteurs. Et est-ce que la France, les États-Unis, donc les pays importateurs, ont une dépendance critique sur la Chine dans le sens où il est extrêmement difficile pour nous de substituer et d'aller chercher ces produits ailleurs, dans une autre provenance. Donc quand on regarde cette analyse de dépendance critique, on trouve par exemple que dans le cas des États-Unis, près de la moitié des importations américaines provenant de Chine sont en fait dans une situation de dépendance critique. Donc environ la moitié des importations américaines provenant de Chine vont être extrêmement difficiles, voire impossibles, à substituer à moyen terme. Tout ça pour dire que on a une part, disons, des exportations chinoises qui peut être à risque de diversification qui peut être à risque d'être remplacé peut-être en partie par de la compétition ou par exemple des pays d'Asie du Sud-Est où la main-d'œuvre est moins chère. Mais en fait, la position de l'autre côté de l'économie chinoise et des producteurs chinois dans les chaînes de valeur mondiales est tellement forte et parfois tellement dominante qu'on ne va pas voir disparaître l'exportateur chinois de sitôt.
La Chine cherche de nouveaux moteurs pour sa croissance. Sur quoi peut-elle s'appuyer à l'avenir ?
Oui, alors dans ce rapport, on a fait le choix de décortiquer ce que les autorités chinoises appellent les nouvelles trois industries, qui sont la voiture électrique, les batteries des voitures électriques, et le renouvelable, plus précisément les produits liés à l'énergie solaire. Et du coup, sur ces trois secteurs-là, qui sont des secteurs plutôt nouveaux, effectivement, la Chine a réussi à s'établir en tant que leader mondial. La Chine a près de 60% de la part de marché mondial en ce qui concerne les batteries des voitures électriques. On sait aussi que l'année dernière, la Chine est devenue le plus grand exportateur mondial de voitures, dépassant le Japon. Et en ce qui concerne le renouvelable, le solaire, la Chine aussi détient plus de 80% de la capacité de fabrication mondiale et par conséquent, plus de 80% des exportations de cellules solaires mondiales. Donc, sur ces trois secteurs, très clairement, on a eu en fait un push de la part des autorités publiques il y a quelques années, dans les années 2010, pour que la Chine, justement, atteigne cette position dominante. En effet, la Chine a réussi à améliorer son potentiel d'innovation. Je pense que c'est plutôt obsolète, en tout cas aujourd'hui, de dire que le Made in China, c'est tout ce qui est bas de gamme, que c'est de la contrefaçon, c'est de la copie, etc. Par exemple, on a un classement sur le potentiel d'innovation qui est fait par l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, qui place la Chine 12e nation la plus innovante en 2023. En 2015, la Chine se positionnait en 29e position, donc on a eu clairement des efforts en interne, des politiques mises en place, des ressources et des moyens mis en place pour améliorer le potentiel d'innovation du pays, et de traduire ça par effectivement une montée en gamme sur la fabrication des industries chinoises, une montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales. Mais à notre avis, évidemment, ça ne suffira pas pour compenser les anciens moteurs de croissance.
Oui, parce que ce sont des secteurs qui pèsent encore relativement peu hein, dans le PIB chinois, comparativement notamment à l'immobilier. Donc vous disiez tout à l'heure, hein, on était à 25-30%. Mais on voit aussi que les Européens, les Américains commencent à ériger des barrières contre ces produits dans l'automobile, les télécoms, les semi-conducteurs, avec l'idée de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs que dans les années 90.
Alors évidemment, la Chine part de positions assez dominantes sur ces secteurs et d'autres, mais on est dans un monde où déjà la mondialisation, disons, n'est pas aussi facile que dans le passé. Les économies occidentales se rendent compte de la domination que l'économie chinoise a déjà dans certains secteurs. Donc évidemment, il y a des mesures mises en place pour essayer de protéger les industries domestiques, ce qui pourrait ralentir le développement futur et les gains de parts de marché futurs des entreprises chinoises. Donc effectivement, ça, c'est un potentiel frein contre l'évolution à venir et la réalisation du potentiel de croissance de ces industries-là. L'autre point pour nous aussi, c'est que donc, déjà, je vous l'ai dit, donc ces moteurs de croissance ne sont pas suffisants pour remplacer les anciens d'un point de vue purement comptable et calcul du PIB chinois, disons. Et l'autre point pour nous aussi qui est important de considérer, c'est que les autorités publiques chinoises se focalisent beaucoup sur donc l'appareil productif, sur le côté industriel, sur vraiment le côté offre et production. Et il semble aussi important de se pencher sur le côté consommation, le côté demande, peut-être penser à des politiques publiques qui aussi permettront de déverrouiller les taux d'épargne importants des ménages chinois en construisant par exemple un système de protection sociale plus inclusif où les remboursements, les subventions, etc. sont aussi meilleurs. Ça pourrait permettre aux ménages chinois de moins épargner et du coup de convertir cette épargne en dépenses, en consommation. Donc pour nous, c'est aussi important pour les autorités chinoises de se pencher sur le côté demande de l'économie et pas uniquement sur l'appareil productif.
Merci Françoise Huang, économiste senior chez Allianz Trade. Vous tablez avec votre équipe sur une croissance moyenne du PIB chinois de 3,9% entre 2025 et 2029. Merci aussi à Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Shanghai. je vous invite à lire son enquête passionnante sur le blues des jeunes diplômés chinois. On vous le met en lien dans la description de cet article. La Story est un podcast des Échos réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.